Radio Kapi.
La CENI appelait à réduire et compresser les détails des activités électorales et au chef de l'État de matérialiser sa volonté d'organiser des élections paisibles et transparentes dans le délai constitutionnel. C'est le vœu des experts électoraux de la société civile. Ils l'ont dit hier devant la presse à Kinshasa. C'est aujourd'hui qu'ont lieu les obsèques des victimes du marché de Matadi Kibala à Kinshasa. Les corps seront exposés au stade Vélodrome à Kintambo avant l'inhumation au cimetière de Mingadi. Tous les frais sont pris en charge par le gouvernement, a annoncé le gouverneur Gentili Ngobila. Et puis, la situation sécuritaire reste stable à Kamanyola dans le sud Kivu. Ceci ressort des échanges cette semaine entre la MONUSCO et les FARDC, la police nationale, la chefferie et la société civile à Kamanyola. Pour en parler, nous recevons Karna Soro, le chef de bureau de la MONUSCO sud Kivu et Maniema. D'abord cette information, le nouveau permis de conduire en RDC sera disponible avant le 30 mai 2022. Cette annonce est contenue dans le communiqué signé par Chérubin Okende, ministre des Transports et Voies de Communication. Ce dernier informe l'opinion publique que le processus de recrutement du partenaire pour la production des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce déclenché depuis 2017 a atteint la phase de conclusion. En même temps, le ministère des Transports porte à la connaissance du public que les permis de conduire délivrés avant la mesure de suspension reste valable jusqu'à la délivrance du nouveau permis. Rappelons que le gouvernement avait suspendu le 22 septembre 2017 l'octroi du permis de conduire. Cette mesure était prise dans la perspective de la mise en circulation des permis de conduire véritablement biométriques à travers toute l'étendue de la République. Madame, Messieurs, bonjour. Processus électoral 2021-2027, on en parle encore. Des experts électoraux des organisations de la société civile demandent à la Commission électorale nationale, CENI, de réduire et compresser avec efficience et rationalité les délais des activités électorales. Parmi ces organisations figurent Agir pour les élections transparentes et apaisées, AITA, et le Réseau d'éducation civique au Congo, RESIC. Lors d'une conférence de presse hier à Kinshasa, Jérôme Bonson, secrétaire permanent de AITA, recommande également au chef de l'État de matérialiser sa volonté d'organiser des élections paisibles et transparentes dans le délai constitutionnel. Écoutez d'autres recommandations de AITA dans cet extrait des propos de son secrétaire permanent Jérôme Bonso, propos recueillis par Paul Matendo Mayamba.
Il est demandé au Parlement de relancer le processus de la réforme de la loi électorale dénommée loi Lokondo et d'autres initiatives de loi dès le début de la session de mars 2022. De lever les grandes options des sessions de mars pour l'organisation à un ou deux tours de l'élection du président de la République, les scrutins directs ou indirects pour l'élection de gouverneur, vice-gouverneur et la prise en compte des Congolais résidents à l'étranger. Les experts électoraux, RESIC et AITA, demande au président de la République de matérialiser sa volonté politique d'organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées dans le délai constitutionnel. Nous invitons le président de la République à déposer des actes concrets. Les experts de RESIC et AITA recommandent au gouvernement de reconnaître et de respecter l'autonomie financière de la Commission électorale nationale indépendante.
RD Congo, le massacre oublié des autochtones de Bianga, publie Human Rights Watch dans un communiqué. Depuis le mercredi, cette ONG internationale dénonce le silence des autorités congolaises et l'absence d'une véritable enquête sur le massacre en février 2021 de 66 villageois Lieke et l'incendie de leur village dans le secteur de Bianga, territoire de Monkoto, province de la Tchouapa. Selon Thomas Fessi, chercheur principal sur la RDC à Human Rights Watch, l'État congolais n'a pas mené une enquête approfondie sur le dit massacre et qu'il en faut davantage pour en établir des responsabilités et sanctionner les coupables. Thomas Fessi est au micro de Jeff Ngoy.
Il n'y a pas eu d'enquête malgré le semblant de procès qui s'est tenu de manière expéditive à Boende fin décembre. Deux personnes étaient jugées, toutes les deux acquittées. Il semble qu'il y a eu des ingérences politiques au niveau provincial notamment. Et donc, un an plus tard, personne n'est toujours tenu responsable de ce massacre et l'affaire est close. Cette absence de justice et le silence qui entoure ces tueries sont le reflet de la discrimination, de l'exclusion sociale dont sont victimes les populations autochtones dans le pays depuis bien longtemps. Ils sont souvent traités comme des citoyens de seconde zone alors qu'ils ont des droits, dont celui d'accéder à la justice, évidemment. Il faut donc ouvrir une nouvelle enquête pour que les auteurs de ces crimes odieux soient poursuivis. Rappelons également que l'Assemblée congolaise a adopté l'an dernier une proposition de loi pour la protection et la promotion des peuples autochtones, mais le texte n'a pas encore été repris par le Sénat. Il est donc important que les sénateurs adoptent rapidement cette loi lors de la prochaine session parlementaire.
Tous nos efforts pour avoir la réaction du ministre des Droits humains sont restés vains. Entre-temps, la réussite des différentes approches du programme de désarmement et démobilisation des groupes armés mis en place par le chef de l'État pour pacifier l'Ituri nécessite l'implication des fils et filles de cette province. C'est ce qu'affirment les membres du comité de pilotage pour la matérialisation du programme DDRCS. Ils se sont exprimés ainsi hier au cours d'un point de presse à Bunia. Les responsables de cette structure dans la province condamnent l'accentuation des violences des groupes armés à l'exemple de l'attaque meurtrière de la plaine Savo dans le territoire de Djougou qui a coûté la vie à plus de 60 personnes. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Le coordonnateur intérimaire du programme de désarmement et démobilisation des groupes armés en Ituri a dévoilé à la presse le contenu de la feuille de route validée sur la restauration de la paix dans la province. Ces documents mettent en avant-plan les différentes actions prévues pour contraindre les fils et filles de cette province qui ont pris les armes à les rendre afin de contribuer au développement économique. Parmi ces actions, il y a par exemple la sensibilisation, mais aussi la prise en charge des miliciens. Jean-Marc Mazio fait savoir que l'accentuation des violences dans plusieurs localités retarde ces processus qui tant attendus par des populations fatiguées par la violence.
Nous n'allons plus travailler à l'ordre dispersé. Ce qui est important, il faudra que les gens se mettent ensemble, arriver à une vision commune pour la paix. Il se dégage un constat malheureux dans nos différents territoires par rapport à la croissance des violences. Vous le savez très bien, la situation des Savo est une situation qui a troublé le cœur de tout le monde. Mais le temps est venu que nous puissions nous organiser pour construire ensemble la paix.
Signalons que plusieurs autres structures, dont la task force, mais aussi la mutualisation des forces entre les armées ougandaises et congolaises, ont été déployées pour tenter de mettre fin aux exactions des groupes armés. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Nord Kivu, deuxième jour hier de l'opération d'identification biométrique des ex-combattants au centre de Mubambiro, c'est à une vingtaine de kilomètres de Goma dans le Masisi. Cette opération du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation fait suite à l'identification mardi dernier de 10 leaders des groupes armés favorables jusqu'à présent à ce processus. Reportage de Bernard Denyangui.
Les centaines d'ex-combattants ciblés par cette identification biométrique comprennent notamment ceux qui se rendent successivement au FRDC depuis février 2020 jusqu'à début 2022. Pour la plupart d'entre eux donc, l'identification qui est prévue au jour même de reddition intervient très tardivement, indiquent certaines sources du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Pour l'un des coordonnateurs provinciaux ad intérim de cette structure publique en Nord Kivu, ce recensement devrait éclairer sur le nombre exact de combattants qui se sont déjà rendus. Jacques Katembo précise que le site de Mubambiro héberge les rendus qui s'y trouvaient déjà, ainsi que ceux qui y ont été acheminés depuis que le camp de Rumangabo avait été vidé vers fin janvier lors des attaques des présumés M23 dans le groupement de Kisigari. Celui-ci précise qu'après cette identification, qui pourrait prendre une semaine, tous ces rendus seront orientés vers un centre de démobilisation où ils devraient suivre une formation professionnelle de 3 à 6 mois pour leur réinsertion communautaire. Goma, Bernard Dinyangi, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, à Kinshasa, c'est ce vendredi qu'ont lieu les obsèques des victimes du marché de Matadi-Kibala. La levée des corps est prévue ce matin à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, suivie d'une exposition au stade Vélodrome à Kintambo, avant l'inhumation prévue au cimetière de Mingadi, dans la périphérie ouest de Kinshasa. Tous les frais sont pris en charge par le gouvernement. Le gouverneur Gentil Ngobilala a annoncé le mercredi aux familles des victimes lors d'une rencontre à Kinshasa. Une enveloppe de 5 000 dollars a été remise à chaque famille comme soutien pendant ce temps difficile, je vous propose d'écouter le gouverneur Gentili Ngobila dans cet extrait choisi par Babel Mpongo Masimango.
Comme annoncé par les chefs de l'État, le gouvernement va prendre en charge tous les frais des obsèques. La levée du corps aura lieu ce vendredi à l'hôpital général de Kinshasa. Les corps commenceront déjà à sortir à partir de 8h30 pour être acheminés au stade Vélodrome à Kintambo. Après une heure à une heure et demie d'exposition, nous prendrons la route pour l'inhumation prévue au cimetière de Mingadi 2. Pour vous permettre d'accueillir vos proches chez vous à l'occasion du deuil et soutenir un peu les enfants, nous remettons à chaque famille une enveloppe de $5,000.
Famille Mokodamoko Bazoa atteint $5,000.
Parlons cette fois de ce drame survenu le mercredi à Beni. Un soldat fardessé a tué 3 civils par balle avant de se donner la mort. Les faits se sont passés au quartier Benengoulé dans la commune de Béou. Parmi les victimes se trouve l'épouse du militaire. Selon les témoins, la jalousie et l'état d'ébriété du militaire seraient à la base de ce drame. Tout en condamnant cet acte, l'armée évoque l'absence de suivi psychologique pour les militaires qui reviennent du front. Le capitaine Anthony Mwalouchai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, explique.
Nous ne pouvons que condamner ça. C'est vraiment un mauvais comportement que l'armée nous a jamais enseigné. Donc, l'arme, on ne la donne pas pour ôter la vie à nos compatriotes. Quels que soient les motifs, c'est condamnable. Il y a un problème que nous avons déjà constaté. C'est aussi la non-présence des psychologues dans notre région, surtout pendant ces opérations. Il nous faut un psychologue. Un psychologue, c'est celui qui récupère psychologiquement les soldats qui viennent fraîchement au front. Si je vous fais un peu la sommation de tous ces cas, vous allez comprendre que ce sont des soldats qui ont fait plus de 6 mois en opération au fin fond, qui n'étaient pas en contact avec leur famille. Le cas dernier, c'est un monsieur qui revenait des opérations et qui a trouvé sa femme, n'est-ce pas, avec un homme. Selon lui, c'est un amant, c'est son adversaire, il faut l'achever. Alors, il a tué sa femme, malheureusement, et un certain monsieur qui n'était même pas concerné dans le dossier, mais qui était près de sa femme, a reçu aussi des balles et il est mort sur place. Et pour clore, il s'est tiré lui-même.
Retour au sud Kivu. La population de la plaine de la Ruzizi bénéficie d'une coopérative laitière mise en place avec l'appui de la MONUSCO à Bouéguéra dans le territoire d'Ouvira. Ce projet bénéficie à 50 membres dont les femmes et filles vulnérables, les jeunes à risque et les démobilisés. C'est pour le développement du milieu et l'autoprise en charge des bénéficiaires. Rachel Kiesembangu a visité la laiterie de Bouéguéra. Voici son reportage.
Dans le cadre de réduire les violences communautaires, la MONUSCO sensibilise les autres combattants à quitter la brousse à travers des projets comme celui-ci. Une coopérative de laiterie. Projet évalué à environ $50,000 déboursé par la MONUSCO à travers sa section DDR Ouvira. Monsieur Carnassoro, chef de bureau MONUSCO Sud Kivu, nous en dit plus.
C'est un projet que nous avons discuté avec les communautés. Dans le cadre de ce projet, nous avons récolté une 60aine d'armes que ces personnes ont déposées en place. Et aujourd'hui, ils ont cette unité de production qui est aujourd'hui à 5000 litres par mois.
Acheter le lait chez les fermiers, ramener à la coopérative pour la transformation, après le chauffage et le refroidissement de ce lait, intervient la répartition en yaourts, en lait caillé et en fromage pour finir avec l'étape d'étiquetage puis celle de la vente. Que rapporte cette laiterie de Bouéguéra sur le plan économique? Safari Romain, président de la coopérative de Bouéguéra.
Nous sommes au nombre de 50, dont 22 femmes et 18 garçons. Sur le plan économique, il y a d'abord la création de l'emploi. Il y a l'argent qui circule parce que c'est une chaîne de valeur. Il y a celui qui lave les assiettes qu'on paye, il y a celui qui amène les laits qu'on paye, il y a celui qui transporte la moto qu'on paye. Il y a déjà une relance économique qui commence à se remarquer.
Depuis Bouéguéra, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Gratuité de l'enseignement primaire, l'Agence américaine de développement international, USAID, entend accompagner ce processus par la prise en compte des enfants marginalisés, ce qui justifie le lancement le mercredi à Mbandaka du projet dénommé « Apprendre tous ensemble ». Il vise l'amélioration de leur alphabétisation et de leurs compétences socio-émotionnelles. La mise en œuvre de ce projet de 5 ans vise, outre l'Équateur, les provinces du Tanganyika, du Maniema et la ville-province de Kinshasa. Coût global, $25 millions. Le point avec Paul-Richard Malingela.
Apprendre tous ensemble en sigle AT est une initiative destinée aux enfants marginalisés dans la communauté, âgés de 6 à 9 ans, y compris ceux des peuples autochtones, les filles et les enfants vivant avec handicap. Ce projet compte soutenir leur apprentissage à la maison. Pour les directeurs de l'USAID RDC, l'appui de son institution avec ses partenaires vise à accorder les mêmes chances à ses enfants. Paul Sabatine.
Nous nous efforcerons de comprendre et de satisfaire les besoins particuliers afin de nous assurer qu'ils sont en mesure de réussir leurs études au même niveau que leurs camarades. Lorsque tous les jeunes ont les mêmes chances de réussir, tout le monde en profite.
Les difficultés d'instruction pour les enfants démunis et autres sont une réalité dans le pays, a reconnu le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de l'Équateur. Taylor Keka a salué ce projet, en ce sens qu'il va aligner sa province dans la dynamique des objectifs du développement durable.
Les problèmes de formation et d'alphabétisation persistent dans les coins les plus reculés de notre pays, et spécialement dans la province de l'Équateur. Ce projet tombe donc à point nommé pour permettre à notre système éducatif de s'inscrire dans la dynamique des objectifs de développement durable qui prônent l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité.
Notons enfin que le projet ATE sera exécuté par RDC en consortium avec 4 autres ONG nationales et internationales. Bandaka, Paul Chamalingué, la radio Okapi.
Et puis, sachez que Christian Dongala Nkumu, nouvel ambassadeur de la RDC en Belgique, a présenté ses lettres de créance au roi belge le mercredi 9 février. Le diplomate congolais avait été nommé en octobre 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mais il devait attendre la remise de ses lettres de créance au roi Philippe de Belgique pour être pleinement opérationnel. Rappelons que le poste d'ambassadeur de la RDC en Belgique était vacant depuis fin 2016, cela après une crise diplomatique belgo-congolaise qui avait conduit l'ancien président Joseph Kabila à rappeler l'ambassadeur de l'époque Dominique Kiloufia Kanfwa.
Actualité Afrique Monde.
Un plan d'investissement de 150 milliards d'euros pour l'Afrique vient d'être dévoilé par la présidente de la Commission européenne. Jeudi, depuis Dakar au Sénégal, Ursula von der Leyen a annoncé le premier plan régional du programme d'investissement Global Gateway de l'Union européenne. Cette conférence donnée aux côtés du président du Sénégal et de l'Union africaine Macky Sall intervient quelques jours avant le sommet Union européenne-Union africaine des 17 février et 18 février en cours.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. La situation sécuritaire reste stable dans la cité de Kamanyola, dans le territoire de Walungu. Aucun groupe armé n'est actif à ce jour dans cette contrée. C'est ce qui ressort des échanges mercredi 9 février entre la MONUSCO et les FARDC, la police nationale congolaise, la chefferie et la société civile à Kamanyola. Karna Soro, chef de bureau de la MONUSCO au Sud Kivu et au Maniema, retrace la situation actuelle de la zone dans cet entretien accordé à Rachel Kiesembango.
Monsieur Karna Soro, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la présence de la MONUSCO, cette mission de la MONUSCO accompagnée du FAO, du PAM, du HCR ici à Kamanyola?
La représentante spéciale nous a demandé de faire le point. Comme vous savez, nous avons beaucoup d'activités dans la zone. La MONUSCO s'occupe de la protection des populations civiles, du renforcement de l'autorité de l'État. Nos autres collègues des Nations Unies s'occupent de différents secteurs de la vie des populations. Alors, la représentante nous a demandé de venir dans la zone, faire le point avec les populations, parler avec elles, évaluer aussi ce que nous faisons et faire un retour pour que nous puissions ajuster ce que nous faisons ou en tout cas répondre mieux aux attentes des populations.
Après avoir échangé avec les FARDC, la PNC, la société civile, que retenir de la situation sécuritaire ici à Kamanyola et dans les environs?
La situation sécuritaire au niveau de Kamanyola est stable, comme vous l'avez vous-même entendu. Il y a des patrouilles mixtes entre la MONUSCO, les FARDC qui couvrent toute la zone jusqu'à Kaziba, et aussi des déploiements d'anticipation au niveau de la base des moyens plateaux pour éviter que la situation dans les moyens plateaux déborde ici sur la vallée au niveau de Kamanyola. Donc il y a tout un travail qui se fait avec eux ici. La MONUSCO a aussi mis en œuvre un certain nombre de projets. l'éclairage au niveau de la voie principale de Kalp Kamanyola pour gérer l'insécurité. Nous sommes aussi avec des collègues de la police des Nations Unies qui ont discuté avec les officiers de police ici pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en termes de formation, renforcement des capacités des policiers. Et aussi, nous avons discuté avec le comité local de protection qui met ensemble toutes les parties prenantes pour que chaque jour, ils se réunissent, ils discutent sur les problèmes auxquels ils doivent faire face et puis donc anticiper sur les problèmes. Donc la situation sécuritaire en général est stable dans cette zone. Les réseaux communautaires d'alerte vont être renforcés. On va avoir deux réseaux communautaires qu'il faut encore renforcer en termes de communication pour s'assurer que les FRDC, la police nationale congolaise et aussi les forces de la MONUSCO sur place et les autres agences parallèles puissent avoir l'information à temps pour pouvoir réagir.
La population se réjouit des efforts fournis par la MONUSCO avec les FRDC et la PNC, mais quels sont les autres problèmes qui rongent la population de Kamanyola ?
Naturellement, dans les discussions avec les collègues des agences, la société civile est revenue aussi sur le manque d'opportunités d'emploi pour la jeunesse. Vous savez que c'est une ville frontalière, il y a beaucoup de jeunes, il n'y a pas d'opportunités d'emploi, il y a aussi beaucoup d'opportunités dans l'agriculture. Donc il faut penser à des projets qui puissent appuyer les jeunes pour pouvoir se mettre dans l'agriculture ou dans des métiers porteurs. Il y a aussi la question qui a été posée, malheureusement, des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, notamment de viols. Les collègues des agences ont aussi pris note de ça. Ils vont travailler avec les infrastructures sanitaires sur place pour pouvoir les équiper et répondre. Et de l'autre côté aussi, la police donc va travailler avec la police des Nations Unies pour pouvoir mener les enquêtes et pouvoir arrêter ces personnes qui commettent ces armes.
Comment la MONUSCO pense-t-elle améliorer sa collaboration avec les gouvernements provinciaux dans cette zone ?
Ben, nous continuons à discuter avec le gouvernement provincial sur toutes ces problématiques-là. Et tout à l'heure, vous avez vu, nous étions avec tous les responsables des administrations locales, le chef de groupement, la police nationale et tous les segments de l'État. Nous discutons avec eux, nous les écoutons. Nous les écoutons et ensemble, nous explorons les voies et moyens d'améliorer la sécurité des populations puisque nous sommes là en tant que MONUSCO, en tant que Nations Unies pour appuyer l'État.
Enfin, que retenir de la suite de cette mission dans la zone ?
Un certain nombre de points d'action ont été retenus. Comme je vous ai dit, tant que ce soit au niveau des propositions qui concernent les agences, tout ce qui concerne aussi la sécurité, un certain nombre de points d'action ont été retenus. Il y a des collègues qui sont en charge donc de revenir vers le comité local de protection. Donc dans 10 jours déjà, les collègues en charge vont reprendre contact pour évaluer les solutions qui ont été proposées, les axes sur lesquels il faut diversifier les patrouilles, les zones culturelles aussi. La question de l'alimentation des enfants dans les écoles a été posée. Les agences respectives y réfléchissent pour assurer la mise en œuvre de ce sur quoi nous nous sommes entendus.
Monsieur Karnasoro, je vous remercie.
Merci à vous.
Notre invité, le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu, Maniema, était avec Rachel Kiesembangu. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.